Honoré de Balzac, le colonel Chabert. Allons, encore notre vieux Carrick. Cette exclamation échappait à un clerc appartenant au genre de ceux qu'on appelle dans les études des sauts de ruisseaux et qui mordait en ce moment de fort bon appétit dans un morceau de pain. Il en arracha un peu de mie pour faire une boulette et la lança railleusement par le vasistas d'une fenêtre sur laquelle il s'appuyait. Bien dirigée, la boulette rebondit presque à la hauteur de la croisée après avoir frappé le chapeau d'un inconnu qui traversait la cour d'une maison située rue Vivienne, où demeurait maître Derville, avoué. « Allons, Simonin, ne faites donc pas de sottises aux gens où je vous mets à la porte. Quelque pauvre que soit un client, c'est toujours un homme que diable !» dit le maître clerc en interrompant l'addition d'un mémoire de frais. Le saut de ruisseau est généralement, comme était Simonin, un garçon de 13 à 14 ans qui, dans toutes les études, se trouve sous la domination spéciale du principal clerc, dont les commissions et les billets doux l'occupent tout en allant porter des exploits chez les huissiers et des placets au palais. Il tient au gamin de Paris par ses mœurs et à la chicane par sa destinée. Cet enfant est presque toujours sans pitié, sans frein, indisciplinable, faiseur de couplets, goguenard, avide et paresseux. Néanmoins, presque tous les petits clercs ont une vieille mère logée à un cinquième étage, avec laquelle ils partagent les 30 ou 40 francs qui leur sont alloués par mois. « Si c'est un homme, pourquoi l'appelez-vous vieux Carrick ?» dit Simonin de l'air de l'écolier qui prend son maître en faute. Et il se remit à manger son pain et son fromage en accotant son épaule sur le montant de la fenêtre, car il se reposait debout, ainsi que les chevaux de coucou, l'une de ses jambes relevées et appuyée contre l'autre sur le bout du soulier. Quel tour pourrions-nous jouer à ce chinois-là ? Dit à voix basse le troisième clerc nommé Godéchal, en s'arrêtant au milieu d'un raisonnement qu'il engendrait dans une requête grossoyée par le quatrième clerc, et dont les copies étaient faites par deux néophytes venus de province. Puis il continua son improvisation. Mais, dans sa noble et bienveillante sagesse, Sa Majesté Louis XVIII, mettez en toutes lettres, et déroche le savant qui fête la grosse. Au moment où elle reprit les rênes de son royaume, comprit. Qu'est-ce qu'il comprit, ce gros farceur-là ? La haute mission à laquelle elle était appelée par la divine providence. Point admiratif et 6 points. On est assez religieux au palais pour nous les passer. Et sa première pensée fut, ainsi que le prouve la date de l'ordonnance ci-dessous désignée, de réparer les infortunes causées par les affreux et tristes désastres de nos temps révolutionnaires, en restituant à ses fidèles et nombreux serviteurs, nombreux est une flatterie qui doit plaire au tribunal, tous leurs biens non vendus, soit qu'ils se trouvassent dans le domaine public, soit qu'ils se trouvassent dans le domaine ordinaire ou extraordinaire de la couronne, soit enfin qu'ils se trouvassent dans les dotations d'établissements publics, car nous sommes et nous nous prétendons habiles à soutenir que tel est l'esprit et le sens de la fameuse et si loyale ordonnance rendue en... « Attendez !» dit Godéchal aux trois clercs. « Cette scélérate de phrase a rempli la fin de ma page. » « Eh bien, » reprit-il en mouillant de sa langue le dos du cahier afin de pouvoir tourner la page épaisse de son papier timbré, « eh bien, si vous voulez lui faire une farce, il faut lui dire que le patron ne peut parler à ses clients qu'entre 2 et 3 heures du matin. Nous verrons s'il viendra, le vieux malfaiteur. » Et Godéchal reprit la phrase commencée. « Rendu en... »« Y êtes-vous » demanda-t-il. « Oui !» crièrent les trois copistes. Tout marchait à la fois, la requête, la causerie et la conspiration. « Rendu en... » « Hein, papa Boucard, quelle est la date de l'ordonnance ? Il faut mettre les points sur les i, Sacarlotte, cela fait des pages. »« Sacarlotte, » répéta l'un des copistes avant que Boucard, le maître clerc, n'eût répondu. « Comment ? Vous avez écrit Sacarlotte ? » s'écria Godéchal en regardant l'un des nouveaux venus d'un air à la fois sévère et goguenard. « Mais oui, » dit Desroches, le quatrième clerc, en se penchant sur la copie de son voisin. « Il a écrit ?» Il faut mettre les points sur les i et Sacarlotte avec un K. » Tous les clercs partirent d'un grand éclat de rire. « Comment, monsieur Huret, vous prenez Sacarlotte pour un terme de droit et vous dites que vous êtes de Mortagne ?» s'écria Simonin. « Effacez bien ça, » dit le principal clerc. « Si le juge en charge de taxer le dossier voyait des choses pareilles, il dirait qu'on se moque de la barbouillée. Vous causeriez des désagréments au patron. Allons, ne faites plus de ces bêtises-là, monsieur Huret. Un Normand ne doit pas écrire insouciamment une requête. C'est le porte-arme de la basoche. » « Rendu en... « En ?» demanda Godéchal. « Dites-moi donc quand, Boucard ?»« Juin 1814, » répondit le premier clerc sans quitter son travail. Un coup frappé à la porte de l'étude interrompit la phrase de la prolixe requête. Cinq clercs bien endentés, aux yeux vifs et railleurs, aux têtes crépues, levèrent le nez vers la porte après avoir tous crié d'une voix de chantre « Entrez !» Boucard resta la face ensevelie dans un monceau d'actes nommé « Broutille » en style de palais et continua de dresser le mémoire de frais auquel il travaillait. L'étude était une grande pièce ornée du poêle classique qui garnit tous les antres de la chicane. Les tuyaux traversaient diagonalement la chambre et rejoignaient une cheminée condamnée sur le marbre de laquelle se voyaient divers monceaux de pain, des triangles de fromage de brie, des côtelettes de porc frais, des verres, des bouteilles et la tasse de chocolat du maître clerc. L'odeur de ces comestibles s'amalgamait si bien avec la puanteur du poêle chauffé sans mesure avec le parfum particulier au bureau et aux paperasses, que la puanteur d'un renard n'y aurait pas été sensible. Le plancher était déjà couvert de fange et de neige apportée par les clercs. Près de la fenêtre se trouvait le secrétaire à cylindre du principal et auquel était adossée la petite table destinée au second clerc. Le second faisait en ce moment le palais. Il pouvait être de 8 à 9 heures du matin. L'étude avait pour tout ornement ces grandes affiches jaunes qui annoncent des saisies immobilières, des ventes, des licitations entre majeurs et mineurs, des adjudications définitives ou préparatoires, la gloire des études. Derrière le maître clerc était un énorme casier qui garnissait le mur du haut en bas, et dont chaque compartiment était bourré de liasses d'où pendait un nombre infini d'étiquettes et de bouts de fil rouge qui donnaient une physionomie spéciale au dossier de procédure. Les rangs inférieurs du casier étaient pleins de cartons jaunis par l'usage, bordés de papier bleu, et sur lesquels se lisaient les noms des gros clients dont les affaires juteuses se cuisinaient en ce moment. Les sales vitres de la croisée laissaient passer peu de jours. D'ailleurs, au mois de février, il existe à Paris très peu d'études où l'on puisse écrire sans le secours d'une lampe avant 10 heures, car elles sont toutes l'objet d'une négligence assez concevable. Tout le monde y va, personne n'y reste, aucun intérêt personnel ne s'attache à ce qui est si banal. Ni l'avoué, ni les plaideurs, ni les clercs ne tiennent à l'élégance d'un endroit qui pour les uns est une classe, pour les autres un passage, pour le maître un laboratoire. Le mobilier crasseux se transmet d'avoué en avoué avec un scrupule si religieux que certaines études possèdent encore des boîtes à résidus, des moules à tirets, des sacs provenant des procureurs du Chelet, abréviation du mot Châtelet, juridiction qui représentait dans l'ancien ordre de choses le tribunal de première instance actuel. Cette étude obscure, grasse de poussière, avait donc, comme toutes les autres, quelque chose de repoussant pour les plaideurs, et qui en faisait une des plus hideuses monstruosités parisiennes. Certes, si les sacristies humides où les prières se pèsent et se payent comme des épices, si les magasins des revendeuses où flottent des guenilles qui flétrissent toutes les illusions de la vie en nous montrant où aboutissent nos fêtes, si ces deux cloaques de la poésie n'existaient pas, une étude d'avoué serait de toutes les boutiques sociales la plus horrible. Mais il en est ainsi de la maison de jeu, du tribunal, du bureau de loterie et du mauvais lieu. Pourquoi ? Peut-être dans ces endroits le drame, en se jouant dans l'âme de l'homme, lui rend-il les accessoires indifférents ? Ce qui expliquerait aussi la simplicité des grands penseurs et des grands ambitieux. « Où est mon canif ? Je déjeune. Va te faire l'enlaire, voilà un pâté sur la roquette. Chit, messieurs !» Ces diverses exclamations partirent à la fois au moment où le vieux plaideur ferma la porte avec cette sorte d'humilité qui dénature les mouvements de l'homme malheureux. L'inconnu essaya de sourire, mais les muscles de son visage se détendirent quand il eut vainement cherché quelques symptômes d'aménité sur les visages inexorablement insouciants des six clercs. Accoutumé sans doute à juger les hommes, il s'adressa fort poliment au saut de ruisseau en espérant que ce pâtirat lui répondrait avec douceur. « Monsieur, votre patron est-il visible ?» Le malicieux saut de ruisseau ne répondit au pauvre homme qu'en se donnant avec les doigts de la main gauche de petits coups répétés sur l'oreille, comme pour dire « Je suis sourd ». « Que souhaitez-vous, monsieur ?» demanda Godeschal qui, tout en faisant cette question, avalait une bouchée de pain avec laquelle on eût pu charger une pièce de quatre, brandissait son couteau et se croisait les jambes en mettant à la hauteur de son œil celui de ses pieds qui se trouvait en l'air. « Je viens ici, monsieur, pour la cinquième fois, » répondit le patient. « Je souhaite parler à monsieur Derville. »« Est-ce pour une affaire ?»« Oui, mais je ne puis l'expliquer qu'à monsieur. » « Le patron dort. Si vous désirez le consulter sur quelques difficultés, il ne travaille sérieusement qu'à minuit. Mais si vous voulez nous dire votre cause, nous pourrions, tout aussi bien que lui, vous... » L'inconnu resta impassible. Il se mit à regarder modestement autour de lui, comme un chien qui, en se glissant dans une cuisine étrangère, craint d'y recevoir des coups. Par une grâce de leur état, les clercs n'ont jamais peur des voleurs. Ils ne soupçonnèrent donc point l'homme au carrick et lui laissèrent observer le local où il cherchait vainement un siège pour se reposer, car il était visiblement fatigué. Par système, les avoués laissent peu de chaises dans leurs études. Le client vulgaire, lassé d'attendre sur ses jambes, s'en va grognant, mais il ne prend pas un temps qui, suivant le mot d'un vieux procureur, n'est pas admis en taxe. « Monsieur, répondit-il, j'ai déjà eu l'honneur de vous prévenir que je ne pouvais expliquer mon affaire qu'à M. Derville. Je vais attendre son lever. » Boucard avait fini son addition. Il sentit l'odeur de son chocolat, quitta son fauteuil de canne, vint à la cheminée, toisa le vieil homme, regarda le carrick et fit une grimace indescriptible. Il pensa probablement que, de quelque manière que l'on tordît ce client, il serait impossible d'en extraire un centime. Il intervint alors par une parole brève, dans l'intention de débarrasser l'étude d'une mauvaise pratique. « Ils vous disent la vérité, monsieur. Le patron ne travaille que pendant la nuit. Si votre affaire est grave, je vous conseille de revenir à 1 h du matin. » Le plaideur regarda le maître clerc d'un air stupide et demeura pendant un moment immobile. Habitué à tous les changements de physionomie et aux singuliers caprices produits par l'indécision ou par la rêverie qui caractérisent les gens processifs, les clercs continuèrent à manger en faisant autant de bruit avec leurs mâchoires que doivent en faire des chevaux au râtelier et ne s'inquiétèrent plus du vieillard. « Monsieur, je viendrai ce soir, » dit enfin le vieux qui, par une ténacité particulière aux gens malheureux, voulait prendre en défaut l'humanité. La seule épigramme permise à la misère est d'obliger la justice et la bienfaisance à des dénis injustes. Quand les malheureux ont convaincu la société de mensonges, ils se rejettent plus vivement dans le sein de Dieu. « Ne voilà-t-il pas un fameux crâne ?» dit Simonin sans attendre que le vieillard eût fermé la porte. « Il a l'air d'un déterré, » reprit le dernier clerc. « C'est quelque colonel qui réclame un arriéré, » dit le maître clerc. « Non, c'est un ancien concierge, » dit Godeschal. « Parions qu'il est noble, » s'écria Boucard. « Je parie qu'il a été portier, » répliqua Godeschal. « Les portiers sont seuls doués par la nature de caricuser, huileux et déchiqueté par le bas comme l'est celui de ce vieux bonhomme. Vous n'avez donc vu ni ses bottes éculées qui prennent l'eau, ni sa cravate qui lui sert de chemise. Il a couché sous les ponts. » « Il pourrait être noble et avoir tiré le cordon, » s'écria Desroches. « Ça s'est vu. » « Non, » reprit Boucard au milieu des rires, « je soutiens qu'il a été brasseur en 1789 et colonel sous la République. »« Ah, je parie un spectacle pour tout le monde qu'il n'a pas été soldat, » dit Godeschal. « Ça va, » répliqua Boucard. « Monsieur, monsieur !» cria le petit clerc en ouvrant la fenêtre. Que fais-tu, Simonin ? Demanda Boucard. Je l'appelle pour lui demander s'il est colonel ou portier, il doit le savoir, lui. Tous les clercs se mirent à rire. Quant au vieillard, il remontait déjà l'escalier. Qu'allons-nous lui dire ? S'écria Godeschal. Laissez-moi faire, répondit Boucard. Le pauvre homme rentra timidement en baissant les yeux, peut-être pour ne pas révéler sa faim en regardant avec trop d'avidité les comestibles. « Monsieur, lui dit Boucard, voulez-vous avoir la complaisance de nous donner votre nom, afin que le patron sache si... »« Chabert. »« Est-ce le colonel mort à Hélo ? » demanda Hulé, qui, n'ayant encore rien dit, était jaloux d'ajouter une raillerie à toutes les autres. « Lui-même, monsieur, » répondit le bonhomme avec une simplicité antique. Et il se retira. « Chouit ! Dégommé ! Pouf ! Oh ! Ah ! Baoun ! Ah, le vieux drôle ! Trine, la latrine trine ! Enfoncez ! Monsieur Desroches, vous irez au spectacle sans payer, » dit Huré au quatrième clerc en lui donnant sur l'épaule une tape à tuer un rhinocéros. Ce fut un torrent de cris, de rires et d'exclamations, à la peinture duquel on userait toutes les onomatopées de la langue. « À quel théâtre irons-nous ? » ?»« À l'opéra !» s'écria le principal. « D'abord, reprit Godeschal, le théâtre n'a pas été désigné. Je puis, si je veux, vous mener chez Madame Saki. »« Madame Saki n'est pas un spectacle !» dit Desroches. « Qu'est-ce qu'un spectacle ?» reprit Godeschal. « Établissons d'abord le point de fait. Qu'ai-je parié, messieurs ? Un spectacle. Qu'est-ce qu'un spectacle ? Une chose qu'on voit ? Mais dans ce système-là, vous vous acquitteriez donc en nous menant voir l'eau couler sous le pont neuf ?» s'écria Simonin en interrompant. « Qu'on voit pour de l'argent, » disait Godeschal en continuant. « Mais on voit pour de l'argent bien des choses qui ne sont pas un spectacle. La définition n'est pas exacte, » dit Desroches. « Mais écoutez-moi donc !» « Vous déraisonnez, mon cher, » dit Boucard. « Curtius est-il un spectacle ?» dit Godeschal. « Non, » répondit le maître clerc, « c'est un cabinet de figure. » « Je parie 100 francs contre un sou, » reprit Godeschal, « que le cabinet de Curtius constitue l'ensemble des choses auxquelles est dévolu le nom de spectacle. Il comporte une chose à voir avec différents prix suivant les différentes places où l'on veut se mettre. » « Et Berlic Berloc, » dit Simonin. « Prends garde que je ne te gifle, toi !» dit Godeschal. Les clercs haussèrent les épaules. « D'ailleurs, il n'est pas prouvé que ce vieux singe ne se soit pas moqué de nous, » dit-il en cessant son argumentation étouffée par le rire des autres clercs. « En conscience, le colonel Chabert est bien mort, sa femme est remariée au comte Ferraud, conseiller d'État. Madame Ferraud est une des clientes de l'étude. »« La cause est remise à demain, » dit Boucard. « À l'ouvrage, messieurs. » « Sac à papier, l'on ne fait rien ici. Finissez donc votre requête, elle doit être vérifiée avant l'audience de la quatrième chambre. L'affaire se juge aujourd'hui. Allons, à cheval !» Si c'eût été le colonel Chabert, est-ce qu'il n'aurait pas chaussé le bout de son pied dans le postérieur de ce farceur de Simonin quand il a fait le sourd ? Dit Desroches en regardant cette observation comme plus concluante que celle de Godeschal. « Puisque rien n'est décidé, » reprit Boucard, « Convenons d'aller aux secondes loges des Français voir Talmade en Néron. Simonin ira au parterre. » Là-dessus, le maître clerc s'assit à son bureau et chacun l'imita. « Rendu en juin 1814 en toutes lettres, » dit Godeschal. « Y êtes-vous ?»« Oui, » répondirent les deux copistes et le gros soyeur dont les plumes recommencèrent à crier sur le papier timbré, en faisant dans l'étude le bruit de 100 hannetons enfermés par des écoliers dans des cornets de papier. « Et nous espérons que messieurs composant le tribunal, » dit l'improvisateur. « Halte, il faut que je relise ma phrase, je ne comprends plus moi-même. » « 46, ça doit arriver souvent. » « Et 3, 49, » dit Boucard. « Nous espérons, » reprit Godeschal après avoir tout relu, que messieurs composant le tribunal ne seront pas moins grands que ne l'est l'auguste auteur de l'ordonnance et qu'ils feront justice des misérables prétentions de l'administration de la grande chancellerie de la Légion d'honneur en fixant la jurisprudence dans le sens large que nous établissons ici. « Monsieur Godeschal, voulez-vous un verre d'eau ? » dit le petit clerc. ce farceur de Simonin, dit Boucard. Tiens, apprête tes chevaux à double semelle, prends ce paquet et valse jusqu'aux Invalides. Que nous établissons ici, reprit Godeschal, ajoutez dans l'intérêt de madame, en toutes lettres, la vicomtesse de Grandlieu. Comment ? S'écria le maître clerc. Vous vous avisez de faire des requêtes dans l'affaire vicomtesse de Grandlieu contre Légion d'honneur, une affaire pour compte d'études entreprise à forfait ? Ah, vous êtes un fier nigaud ! Voulez-vous bien me mettre de côté vos copies et votre minute ? Gardez-moi cela pour l'affaire Navarreins contre les hospices. Il est tard, je vais faire un bout de placé avec des attendus et j'irai moi-même au palais. Cette scène représente un des mille plaisirs qui, plus tard, font dire, en pensant à la jeunesse, c'était le bon temps. Vers 1 heure du matin, le prétendu colonel Chabert vint frapper à la porte de maître Derville, avoué près le tribunal de première instance du département de la Seine. Le portier lui répondit que M. Derville n'était pas rentré. Le vieillard allégua le rendez-vous et monta chez ce célèbre légiste qui, malgré sa jeunesse, passait pour être une des plus fortes têtes du palais. Après avoir sonné, le défiant solliciteur ne fut pas médiocrement étonné de voir le premier clerc occupé à ranger sur la table de la salle à manger de son patron les nombreux dossiers des affaires qui venaient le lendemain en ordre utile. Le clerc, non moins étonné, salua le colonel en le priant de s'asseoir, ce que fit le plaideur. « Ma foi, monsieur, j'ai cru que vous plaisantiez hier en m'indiquant 1 heure si matinale pour une consultation, » dit le vieillard avec la fausse gaieté d'un homme ruiné qui s'efforce de sourire. Les clercs plaisantaient et disaient vrai tout ensemble, reprit le principal en continuant son travail. Monsieur Derville a choisi cette heure pour examiner ses causes, en résumer les moyens, en ordonner la conduite, en disposer les défenses. Sa prodigieuse intelligence est plus libre en ce moment, le seul où il obtienne le silence et la tranquillité nécessaires à la conception des bonnes idées. Vous êtes, depuis qu'il est avoué, le 3e exemple d'une consultation donnée à cette heure nocturne. Après être rentré, le patron discutera chaque affaire, lira tout, passera peut-être 4 ou 5 heures à sa besogne. Puis il me sonnera et m'expliquera ses intentions. Le matin, de 10 heures à 2 heures, il écoute ses clients, puis il emploie le reste de la journée à ses rendez-vous. Le soir, il va dans le monde pour y entretenir ses relations. Il n'a donc que la nuit pour creuser ses procès, fouiller les arsenaux du code et faire ses plans de bataille. Il ne veut pas perdre une seule cause, il a l'amour de son art. Il ne se charge pas, comme ses confrères, de toute espèce d'affaires. Voilà sa vie, qui est singulièrement active. Aussi gagne-t-il beaucoup d'argent. En entendant cette explication, le vieillard resta silencieux, et sa bizarre figure prit une expression si dépourvue d'intelligence que le clerc, après l'avoir regardé, ne s'occupa plus de lui. Quelques instants après, Derville rentra, mis en costume de bal. Son maître clerc lui ouvrit la porte et se remit à achever le classement des dossiers. Le jeune avoué demeura pendant un moment stupéfait en entrevoyant dans le clair-obscur le singulier client qui l'attendait. Le colonel Chabert était aussi parfaitement immobile que peut l'être une figure en cire de ce cabinet de Curtius où Godeschal avait voulu mener ses camarades. Cette immobilité n'aurait peut-être pas été un sujet d'étonnement si elle n'eût complété le spectacle naturel que présentait l'ensemble du personnage. Le vieux soldat était sec et maigre. Son front, volontairement caché sous les cheveux de sa perruque lisse, lui donnait quelque chose de mystérieux. Ses yeux paraissaient couverts d'une taie transparente. Vous eussiez dit de la nacre sale dont les reflets bleuâtres chatoyaient à la lueur des bougies. Le visage pâle, livide et en lame de couteau, s'il est permis d'emprunter cette expression vulgaire, semblait mort. Le cou était serré par une mauvaise cravate de soie noire. L'ombre cachait si bien le corps à partir de la ligne brune que décrivait ce haillon qu'un homme d'imagination aurait pu prendre cette vieille tête pour quelque silhouette due au hasard ou pour un portrait de Rembrandt sans cadre. Les bords du chapeau qui couvrait le front du vieillard projetaient un sillon noir sur le haut du visage. Cet effet bizarre, quoique naturel, faisait ressortir, par la brusquerie du contraste, les rides blanches, les sinuosités froides, le sentiment décoloré de cette physionomie cadavéreuse. Enfin, l'absence de tout mouvement dans le corps, de toute chaleur dans le regard, s'accordait avec une certaine expression de démence triste, avec les dégradants symptômes par lesquels se caractérise l'idiotisme, pour faire de cette figure je ne sais quoi de funeste qu'aucune parole humaine ne pourrait exprimer. Mais un observateur, et surtout un avoué, aurait trouvé de plus en cet homme foudroyé les signes d'une douleur profonde, les indices d'une misère qui avait dégradé ce visage, comme les gouttes d'eau tombées du ciel sur un beau marbre l'ont à la longue défiguré. Un médecin, un auteur, un magistrat eussent pressenti tout un drame à l'aspect de cette sublime horreur, dont le moindre mérite était de ressembler à ces fantaisies que les peintres s'amusent à dessiner au bas de leurs pierres lithographiques en causant avec leurs amis. En voyant l'avoué, l'inconnu tressaillit par un mouvement convulsif semblable à celui qui échappe au poète quand un bruit inattendu vient les détourner d'une féconde rêverie au milieu du silence et de la nuit. Le vieillard se découvrit promptement et se leva pour saluer le jeune homme. Le cuir qui garnissait l'intérieur de son chapeau était sans doute fort gras, sa perruque y resta collée sans qu'il s'en aperçût, et laissa voir à nu son crâne horriblement mutilé par une cicatrice transversale qui prenait à l'occiput et venait mourir à l'œil droit, en formant partout une grosse couture saillante. L'enlèvement soudain de cette perruque sale, que le pauvre homme portait pour cacher sa blessure, ne donna nulle envie de rire aux deux gens de loi, tant ce crâne fendu était épouvantable à voir. La première pensée que suggérait l'aspect de cette blessure était celle-ci. Par là s'est enfui l'intelligence. Si ce n'est pas le colonel Chabert, ce doit être un fier troupier, pensa Boucard. Monsieur, lui dit Derville, à qui ai-je l'honneur de parler ?
Au colonel Chabert.
Lequel ?
Celui qui est mort à Eylau, répondit le vieillard.
En entendant cette singulière phrase, le clerc et l'avoué se jetèrent un regard qui signifiait « c'est un fou ». Monsieur, reprit le colonel, je désirerais ne confier qu'à vous le secret de ma situation. Une chose digne de remarque est l'intrépidité naturelle aux avoués. Soit l'habitude de recevoir un grand nombre de personnes, soit le profond sentiment de la protection que les lois leur accordent, soit confiance en leur ministère, ils entrent partout sans rien craindre, comme les prêtres et les médecins. Derville fit un signe à Boucard qui disparut. Monsieur, reprit l'avoué, pendant le jour je ne suis pas trop avare de mon temps, mais au milieu de la nuit les minutes me sont précieuses. Ainsi soyez bref et concis. Allez au fait sans digression. Je vous demanderai moi-même les éclaircissements qui me sembleront nécessaires. Parlez. Après avoir fait asseoir son singulier client, le jeune homme s'assit lui-même devant la table. Mais, tout en prêtant son attention au discours du feu colonel, il feuilleta ses dossiers. « Monsieur, dit le défunt, peut-être savez-vous que je commandais un régiment de cavalerie à Eylau. J'ai été pour beaucoup dans le succès de la célèbre charge que fit Murat et qui décida le gain de la bataille. Malheureusement pour moi, ma mort est un fait historique consigné dans les victoires et les conquêtes, et elle est rapportée en détail. Nous fendîmes en deux les trois lignes russes qui, s'étant aussitôt reformées, nous obligèrent à les retraverser en sens contraire. Au moment où nous revenions vers l'empereur, après avoir dispersé les Russes, je rencontrai un gros de cavalerie ennemie. Je me précipitai sur ces entêtés-là. Deux officiers russes, deux vrais géants, m'attaquèrent à la fois. L'un d'eux m'appliqua sur la tête un coup de sabre qui fendit tout jusqu'à un bonnet de soie noire que j'avais sur la tête et m'ouvrit profondément le crâne. Je tombai de cheval. Murat vint à mon secours. Il me passa sur le corps, lui et tout son monde, 1500 hommes, excusez du peu. Ma mort fut annoncée à l'empereur qui, par prudence, il m'aimait un peu, le patron, voulut savoir s'il n'y aurait pas quelque chance de sauver l'homme auquel il était redevable de cette vigoureuse attaque. Il envoya pour me reconnaître et me rapporter aux ambulances,
deux chirurgiens, en leur disant, peut-être trop négligemment car il avait de l'ouvrage, « Allez donc voir si par hasard mon pauvre Chabert vit encore. » Ces sacrés carabins, qui venaient de me voir fouler aux pieds par les chevaux de deux régiments, se dispensèrent sans doute de me tâter le pouls et dire que j'étais bien mort. L'acte de mon décès fut donc probablement dressé d'après les règles établies par la jurisprudence militaire. En entendant son client s'exprimer avec une lucidité parfaite et raconter des faits si vraisemblables, quoique étranges, le jeune avoué laissa ses dossiers, posa son coude gauche sur la table, se mit la tête dans les mains et regarda le colonel fixement. « Savez-vous, monsieur, lui dit-il en l'interrompant, que je suis l'avoué de la comtesse Ferraud, veuve du colonel Chabert ?»« Ma femme ? Oui, monsieur. Aussi, après 100 démarches infructueuses chez des gens de loi qui m'ont tous pris pour un fou, me suis-je déterminé à venir vous trouver. Je vous parlerai de mes malheurs plus tard. Laissez-moi d'abord vous établir les faits, vous expliquer plutôt comment ils ont dû se passer que comme ils sont arrivés. » Certaines circonstances, qui ne doivent être connues que du Père éternel, m'obligent à en présenter plusieurs comme des hypothèses. Donc, monsieur, les blessures que j'ai reçues auront probablement produit un tétanos ou m'auront mis dans une crise analogue à une maladie nommée, je crois, catalepsie. Autrement, comment concevoir que j'ai été, suivant l'usage de la guerre, dépouillé de mes vêtements et jeté dans la fosse aux soldats par les gens chargés d'enterrer les morts ? Ici, permettez-moi de placer un détail que je n'ai pu connaître que postérieurement à l'événement qu'il faut bien appeler ma mort. J'ai rencontré en 1814 à Stuttgart un ancien maréchal des logis de mon régiment. Ce cher homme, le seul qui ait voulu me reconnaître et de qui je vous parlerai tout à l'heure, m'expliqua le phénomène de ma conservation en me disant que mon cheval avait reçu un boulet dans le flanc au moment où je fus blessé moi-même. La bête et le cavalier s'étaient donc abattus comme des capucins de cartes. En me renversant, soit à droite, soit à gauche, j'avais été sans doute couvert par le corps de mon cheval qui m'empêcha d'être écrasé par les chevaux ou atteint par des boulets. Lorsque je revins à moi, monsieur, j'étais dans une position et dans une atmosphère dont je ne vous donnerai pas une idée en vous entretenant jusqu'à demain. Le peu d'air que je respirais était méphitique. Je voulus me mouvoir et ne trouvais point d'espace. En ouvrant les yeux, je ne vis rien. La rareté de l'air fut l'accident le plus menaçant et qui m'éclaira le plus vivement sur ma position. Je compris que là où j'étais, l'air ne se renouvelait point et que j'allais mourir. Cette pensée m'ôta le sentiment de la douleur inexprimable par laquelle j'avais été réveillée. Mes oreilles tintèrent violemment. J'entendis, ou crus entendre, je ne veux rien affirmer, des gémissements poussés par le monde de cadavres au milieu duquel je gisais. Quoique la mémoire de ces moments soit bien ténébreuse, quoique mes souvenirs soient bien confus, malgré les impressions de souffrance encore plus profondes que je devais éprouver et qui ont brouillé mes idées, il y a des nuits où je crois encore entendre ces soupirs étouffés. Mais il y a eu quelque chose de plus horrible que les cris, un silence que je n'ai jamais retrouvé nulle part, le vrai silence du tombeau. Enfin, en levant les mains, en tâtant les morts, je reconnus un vide entre ma tête et le fumier humain supérieur. Je pus donc mesurer l'espace qui m'avait été laissé par un hasard dont la cause m'était inconnue. Il paraît, grâce à l'insouciance ou à la précipitation avec laquelle on nous avait jetés pêle-mêle, que deux morts s'étaient croisés au-dessus de moi, de manière à décrire un angle semblable à celui de deux cartes mises l'une contre l'autre par un enfant qui pose les fondements d'un château. En furetant avec promptitude, car il ne fallait pas flâner, je rencontrai fort heureusement un bras qui ne tenait à rien, le bras d'un Hercule, un bon os auquel je dus mon salut. Sans ce secours inespéré, je périssais. Mais, avec une rage que vous devez concevoir, je me mis à travailler les cadavres qui me séparaient de la couche de terre sans doute jetée sur nous, je dis « nous » comme s'il y eut des vivants. J'y allais ferme, monsieur, car me voici. Mais je ne sais pas aujourd'hui comment j'ai pu parvenir à percer la couverture de chair qui mettait une barrière entre la vie et moi. Vous me direz que j'avais trois bras. Ce levier, dont je me servais avec habileté, me procurait toujours un peu de l'air qui se trouvait entre les cadavres que je déplaçais et je ménageais mes aspirations. Enfin, je vis le jour, mais à travers la neige, monsieur. En ce moment, je m'aperçus que j'avais la tête ouverte. Par bonheur, mon sang, celui de mes camarades, ou la peau meurtrie de mon cheval peut-être, que sais-je, m'avait, en se coagulant, comme enduit d'un emplâtre naturel. Malgré cette croûte, je m'évanouis quand mon crâne fut en contact avec la neige. Cependant, le peu de chaleur qui me restait ayant fait fondre la neige autour de moi, je me trouvais, quand je repris connaissance, au centre d'une petite ouverture par laquelle je criais aussi longtemps que je le pus. Mais alors le soleil se levait, j'avais donc bien peu de chance pour être entendu. Y avait-il déjà du monde au champ ? Je me haussais en faisant de mes pieds un ressort dont le point d'appui était sur les défunts qui avaient les reins solides. Vous sentez que ce n'était pas le moment de leur dire « respect ou courage malheureux ». Bref, monsieur, après avoir eu la douleur, si le mot peut rendre ma rage, de voir pendant longtemps, oh oui, longtemps, ces sacrés Allemands se sauvant en entendant une voix là où ils n'apercevaient point d'homme, je fus enfin dégagé par une femme assez hardie ou assez curieuse pour s'approcher de ma tête qui semblait avoir poussé hors de terre comme un champignon. Cette femme alla chercher son mari et tous deux me transportèrent dans leur pauvre baraque. Il paraît que j'eus une rechute de catalepsie. Passez-moi cette expression pour vous peindre un état duquel je n'ai nulle idée, mais que j'ai jugé, sur les dires de mes hôtes, devoir être un effet de cette maladie. Je suis restée pendant 6 mois entre la vie et la mort, ne parlant pas ou déraisonnant quand je parlais. Enfin, mes hôtes me firent admettre à l'hôpital d'Eisberg. Vous comprenez, monsieur, que j'étais sortie du ventre de la fosse aussi nue que de celui de ma mère. En sorte que, 6 mois après, quand, un beau matin, je me souvins d'avoir été le colonel Chabert, et qu'en recouvrant ma raison, je voulus obtenir de ma garde plus de respect qu'elle n'en accordait à un pauvre diable, tous mes camarades de chambrée se mirent à rire. Heureusement pour moi, le chirurgien avait répondu, par amour-propre, de ma guérison, et s'était naturellement intéressé à son malade. Lorsque je lui parlais d'une manière suivie de mon ancienne existence, ce brave homme, nommé Sparman, fit constater, dans les formes juridiques voulues par le droit du pays, la manière miraculeuse dont j'étais sorti de la fosse des morts, le jour et l'heure où j'avais été trouvée par ma bienfaitrice et par son mari. Le genre, la position exacte de mes blessures, en joignant à ces différents procès-verbaux une description de ma personne. Eh bien, monsieur, je n'ai ni ces pièces importantes, ni la déclaration que j'ai faite chez un notaire d'Heilsberg en vue d'établir mon identité. Depuis le jour où je fus chassé de cette ville par les événements de la guerre, j'ai constamment erré comme un vagabond, mendiant mon pain, traité de fou lorsque je racontais mon aventure, et sans avoir ni trouvé, ni gagné un sou pour me procurer les actes qui pouvaient prouver mes dires et me rendre à la vie sociale. Souvent mes douleurs me retenaient durant des semestres entiers dans de petites villes où l'on prodiguait des soins aux Français malades, mais où l'on riait au nez de cet homme dès qu'il prétendait être le colonel Chabert. Pendant longtemps, ces rires, ces doutes me mettaient dans une fureur qui me nuisit et me fit même enfermer comme un fou à Stuttgart. À la vérité, vous pouvez juger, d'après mon récit, qu'il y avait des raisons suffisantes pour faire coffrer un homme. Après 2 ans de détention que je fus obligé de subir, après avoir entendu 1000 fois mes gardiens disant « Voilà un pauvre homme qui croit être le colonel Chabert », à des gens qui répondaient « Le pauvre homme », je fus convaincu de l'impossibilité de ma propre aventure. Je devins triste, résigné, tranquille, et renonçai à me dire le colonel Chabert afin de pouvoir sortir de prison et revoir la France. Oh, monsieur, revoir Paris, c'était un délire que je ne... » À cette phrase inachevée, le colonel Chabert tomba dans une rêverie profonde que Derville respecta. « Monsieur, un beau jour, reprit le client, un jour de printemps, on me donna la clé des champs et dit à l'air, sous prétexte que je parlais très sensément sur toutes sortes de sujets et que je ne me disais plus le colonel Chabert. Ma foi, vers cette époque, et encore aujourd'hui, par moments, mon nom m'est désagréable. Je voudrais n'être pas moi. Le sentiment de mes droits me tue. Si ma maladie m'avait ôté tout souvenir de mon existence passée, j'aurais été heureux. J'eusse repris du service sous un nom quelconque, et qui sait, je serais peut-être devenu feld-maréchal en Autriche ou en Russie. « Monsieur, dit l'avoué, vous brouillez toutes mes idées. Je crois rêver en vous écoutant. De grâce, arrêtons-nous pendant un moment. » « Vous êtes, dit le colonel d'un air mélancolique, la seule personne qui m'ait si patiemment écouté. Aucun homme de loi n'a voulu m'avancer dix Napoléons afin de faire venir d'Allemagne les pièces nécessaires pour commencer mon procès. » « Quel procès ? Dit l'avoué, qui oubliait la situation douloureuse de son client en entendant le récit de ses misères passées. « Mais, monsieur, la comtesse Ferraud n'est-elle pas ma femme ? Elle possède 30 000 livres de rente qui m'appartiennent et ne veut pas me donner 2 liards. Quand je dis ces choses à des avoués, à des hommes de bon sens, quand je propose, moi, mendiant, de plaider contre un comte et une comtesse, quand je me lève, moi, mort contre un acte de décès, un acte de mariage et des actes de naissance, ils me conduisent, suivant leur caractère, soit avec cet air froidement poli que vous savez prendre pour vous débarrasser d'un malheureux, soit brutalement, en gens qui croient rencontrer un intrigant ou un fou. J'ai été enterré sous des morts, mais maintenant je suis enterré sous des vivants, sous des actes, sous des faits, sous la société tout entière qui veut me faire rentrer sous terre. Monsieur, veuillez poursuivre maintenant, dit l'avoué. « Veuillez, s'écria le malheureux vieillard en prenant la main du jeune homme, voilà le premier mot de politesse que j'entends depuis. » Le colonel pleura. La reconnaissance étouffa sa voix. Cette pénétrante et indicible éloquence qui est dans le regard, dans le geste, dans le silence même, acheva de convaincre Derville et le toucha vivement. « Écoutez, monsieur, dit-il à son client, j'ai gagné ce soir 300 francs au jeu. Je puis bien employer la moitié de cette somme à faire le bonheur d'un homme. Je commencerai les poursuites et diligences nécessaires pour vous procurer les pièces dont vous me parlez, et jusqu'à leur arrivée, je vous remettrai 100 sous par jour. Si vous êtes le colonel Chabert, vous saurez pardonner la modicité du prêt à un jeune homme qui a sa fortune à faire. Poursuivez. » Le prétendu colonel resta pendant un moment immobile et stupéfait. Son extrême malheur avait sans doute détruit ses croyances. S'il courait après son illustration militaire, après sa fortune, après lui-même, peut-être était-ce pour obéir à ce sentiment inexplicable, en germe dans le cœur de tous les hommes, et auquel nous devons les recherches des alchimistes, la passion de la gloire, les découvertes de l'astronomie, de la physique, tout ce qui pousse l'homme à se grandir en se multipliant par les faits ou par les idées. L'ego, dans sa pensée, n'était plus qu'un objet secondaire, de même que la vanité du triomphe ou le plaisir du gain deviennent plus chers au parieur que ne l'est l'objet du pari. Les paroles du jeune avoué furent donc comme un miracle pour cet homme rebuté pendant 10 années par sa femme, par la justice, par la création sociale entière. Trouver chez un avoué ces 10 pièces d'or qui lui avaient été refusées pendant si longtemps, par tant de personnes et de tant de manières. Le colonel ressemblait à cette dame qui, ayant eu la fièvre durant 15 années, crut avoir changé de maladie le jour où elle fut guérie. Il est des félicités auxquelles on ne croit plus. Elles arrivent, c'est la foudre, elles consument. Aussi la reconnaissance du pauvre homme était-elle trop vive pour qu'il pût l'exprimer. Il eût paru froid aux gens superficiels, mais Derville devina toute une probité dans cette stupeur. Un fripon aurait eu de la voix. « Où en étais-je ? » dit le colonel avec la naïveté d'un enfant ou d'un soldat, car il y a souvent de l'enfant dans le vrai soldat et presque toujours du soldat chez l'enfant, surtout en France. « À Stuttgart, vous sortiez de prison, » répondit l'avoué. « Vous connaissez ma femme ? » demanda le colonel. « Oui, » répliqua Derville en inclinant la tête. « Comment est-elle ? » ?»« Toujours ravissante. » Le vieillard fit un signe de main et parut dévorer quelques secrètes douleurs avec cette résignation grave et solennelle qui caractérise les hommes éprouvés dans le sang et le feu des champs de bataille. « Monsieur, » dit-il avec une sorte de gaieté, car il respirait ce pauvre colonel, il sortait une seconde fois de la tombe. Il venait de fondre une couche de neige moins soluble que celle qui jadis lui avait glacé la tête, et il aspirait l'air comme s'il quittait un cachot. « Monsieur, dit-il, Si j'avais été joli garçon, aucun de mes malheurs ne me serait arrivé. Les femmes croient les gens quand ils farcissent leurs phrases du mot amour. Alors elles trottent, elles vont, elles se mettent en quatre, elles intriguent, elles affirment les faits, elles font le diable pour celui qui leur plaît. Comment aurais-je pu intéresser une femme? J'avais une face de requiem, j'étais vêtue comme un sans-culotte, je ressemblais plutôt à un Esquimau qu'à un Français, moi qui passais jadis pour le plus joli des muscadins en 1799. Moi, Chabert, comte de l'Empire. Enfin, le jour même où l'on me jeta sur le pavé comme un chien, je rencontrai le maréchal des logis de qui je vous ai déjà parlé. Le camarade se nommait Boutin. Le pauvre diable et moi faisions la plus belle paire de rosses que j'ai jamais vue. Je l'aperçus à la promenade. Si je le reconnus, il lui fut impossible de deviner qui j'étais. Nous allâmes ensemble dans un cabaret.